Merci de rester à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, le rapport accablant d'Amnesty International sur la situation des droits humains partout dans le monde. L'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine et à Israël, votée cette nuit par le Sénat des États-Unis. Dans ce journal, reportage en Cisjordanie depuis le 7 octobre, 120 000 Palestiniens ne peuvent plus aller travailler en Israël. On parlera aussi des Jeux Olympiques Paris 2024. La majorité des épreuves se déroulera dans le département de la Seine-Saint-Denis le 9-3. Ça tombe bien, on est à 93 jours des JO. Des guerres partout dans le monde qui s'accompagnent de violations massives des droits humains. C'est le constat que tire Amnesty International dans son rapport annuel publié aujourd'hui. L'Organisation de défense des droits humains évoque un ordre mondial au bord de la rupture. L'ordre mondial bâti après 1945. L'année 2023 est l'année du retour en arrière selon Amnesty. Marine Le Bègue.
Une dystopie digne de George Orwell. Partout, les droits ont subi des coups de boutoir. Un bilan qui se résume en un seul mot pour Jean-Claude Samouillet, le directeur France d'Amnesty.
Il est accablant dans le fait que les États, les personnes qui auraient le pouvoir de faire cesser les atrocités, ne remplissent pas leur mission. Il est accablant parce qu'il révèle du mépris pour la vie humaine, pour la dignité humaine et pour les droits fondamentaux de la personne humaine, notamment dans les cas de conflit.
Gaza, Ukraine, Soudan, les cas ne manquent pas et à chaque fois, les civils sont en première ligne. Avec une nouvelle menace, celle de l'intelligence artificielle et de ses technologies non réglementées, comme l'Eye Border Control, un détecteur de mensonges testé dans plusieurs pays européens. Katia Roux est chargée de plaidoyer.
Ce système, au moment de l'interrogatoire des personnes qui cherchent à franchir la frontière, va analyser la moindre expression faciale. Et donc, si le système estime que les personnes ont répondu honnêtement, eh bien, elles vont recevoir un code qui va leur permettre de franchir la frontière. Et évidemment, dans le cas contraire, elles vont être redirigées vers des personnes qui vont poursuivre les interrogatoires.
Un pouvoir aussi considérable que dangereux pour Amnesty. Le tout dans un monde démocratique en crise. L'organisation rappelle qu'en 2023, il n'y a pas plus de personnes vivant dans une démocratie qu'en 1985, avant la chute du mur de Berlin et la libération de Nelson Mandela.
Et Amnesty International est tout aussi sévère sur la situation en France. L'ONG dénonce des restrictions excessives au droit de manifester, un déni sur la question des discriminations systématiques exercées par les forces de l'ordre. Amnesty International dénonce aussi la législation sur l'apologie du terrorisme qui représente un risque d'atteinte à la liberté d'expression. C'est précisément pour apologie du terrorisme que la présidente des députés de la France Insoumise est convoquée par la police. C'est elle-même qui l'a annoncé hier en cause le communiqué de la France Insoumise sur l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. La guerre à Gaza justement, 200 jours de guerre. Et ce matin encore, de nouvelles frappes israéliennes sur le territoire palestinien, dans le centre de la bande de Gaza et dans le sud à Rafah. 200 jours de guerre qui pèsent aussi sur la vie quotidienne des Palestiniens de Cisjordanie. Les attaques des colons se sont multipliées en toute impunité. Et puis 120 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël avant le 7 octobre ne sont plus autorisés à pénétrer dans le pays. Ils se retrouvent donc sans travail, sans revenu depuis plus de 6 mois. Reportage de Guilhem Delteil et Nicolas Benita à Beit Saour, en Cisjordanie, c'est à côté de Bethléem.
Avant le 7 octobre, Bachir Rachmaoui travaillait en tant que mécanicien sur des chantiers de construction en Israël. Depuis,
je vais juste au centre-ville faire quelques courses et je reviens, c'est tout. Alors j'ai fait un beau jardin.
Tomates, salades, choux raves et arbres fruitiers sont devenus sa principale occupation. Ce père de 5 enfants garde le sourire, mais l'absence totale de revenus pèse lourdement sur ses finances.
Cela fait 7 mois que je n'ai pas de salaire. C'est vraiment très dur. J'ai 2 filles à l'université et les autres enfants à l'école. Il faut payer les frais.
En travaillant en Israël, Bachir Rachmaoui a plus que doublé ses revenus, mais il s'est aussi coupé d'un réseau professionnel palestinien.
Je suis nouveau ici maintenant, personne ne me connaît. Alors trouver du travail du côté palestinien, c'est difficile. Aussi parce que la situation ici n'est pas bonne. Il n'y a pas d'argent ni de travail.
60% de ses collègues viennent de Cisjordanie et l'absence de tous ces ouvriers pèse donc aussi sur l'économie israélienne.
Mon patron a demandé au gouvernement israélien d'ouvrir les postes de contrôle parce qu'ils ont besoin de nous pour reprendre leur pleine activité. On espère que ce sera le mois prochain.
Un espoir qu'il partage avec son employeur qui continue de payer les frais de son permis de travail en Israël. Nicolas Benita, Guilhem Deltaï, Betzahour, RFI.
Réaction d'Israël après le vote par le Congrès des États-Unis d'une aide militaire de 13 milliards de dollars. Un vote final qui a eu lieu au Sénat cette nuit. C'est un message fort à nos ennemis, dit le gouvernement israélien. Ce vote du Congrès est aussi un feu vert à une nouvelle aide des États-Unis à l'Ukraine. 61 milliards de dollars. Joe Biden doit signer la loi dans les prochaines heures en s'adressant à la nation américaine. Et il a fait savoir que de nouvelles armes vont être envoyées à l'Ukraine dès cette semaine. L'Ukraine, elle revendique ce matin des frappes de drones sur des sites énergétiques russes, deux dépôts pétroliers, alors que Washington, ces derniers jours, a publiquement critiqué les frappes de Kiev sur le sol russe, en particulier sur les sites énergétiques. Le chef de la diplomatie des États-Unis vient d'arriver en Chine, à Shanghai. Deuxième visite d'Anthony Blinken en moins d'un an, alors que Pékin a réagi à une aide militaire des États-Unis à Taïwan, votée hier soir en même temps que l'aide à Israël et à l'Ukraine. Ce soutien militaire américain, dit la Chine, ne fait qu'accroître les risques de conflits de part et d'autre du détroit. Aux États-Unis, la suite du procès de Donald Trump, l'affaire Stormy Daniels, comment les comptes de la Trump Organisation ont été maquillés pour cacher l'achat du silence de l'ancienne actrice porno qui avait eu une liaison avec Donald Trump. L'ancien président des États-Unis et ses avocats hier n'ont pas passé une très bonne journée. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Vous perdez toute crédibilité auprès de la Cour. Le juge Merchant n'est pas content et il le fait savoir aux avocats de Donald Trump. Ils essayaient d'expliquer que les critiques publiées ou relayées sur ses réseaux sociaux par l'ancien président contre des témoins clés de l'affaire ou contre le juge lui-même échappaient à l'injonction au silence de par leur caractère politique. L'accusation affirmant, elle, que cela était arrivé 10 fois en une semaine. Cela pourrait valoir la prison, mais le procureur réclame plutôt $1000 par violation pour que cela s'arrête enfin. Le juge prendra une décision ultérieurement car il est occupé à entendre le premier témoin, David Pecker, le directeur du National Enquirer, proche de Donald Trump, explique la pratique du catch and kill, le fait d'acheter l'exclusivité sur une histoire gênante pour le candidat Trump en 2016 pour ne rien publier ensuite. Cela concerne des relations extra-conjugales ou l'existence supposée d'enfants illégitimes de Donald Trump avec des employés de la Trump Tower. David Pecker explique aussi qu'il publiait des tissus de mensonges contre des adversaires politiques, y compris républicains, et ce n'est pas terminé, son témoignage je reprends jeudi. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
RFI, midi 8, à Paris, le foot. En France, il y a 3 matchs de championnat de Ligue 1 ce soir. C'est la 29e journée. Marseille-Nice, Monaco-Lille. Et puis Lorient, Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain pourrait devenir champion de France dès ce soir. Les Jeux Olympiques Paris 2024 à 93 jours de la cérémonie d'ouverture. On va dans le 9-3, le département de la Seine-Saint-Denis qui accueillera la majorité des épreuves. En attendant les rencontres, les compétitions, les collectivités territoriales multiplient tournois, notamment à destination des plus jeunes. Reportage d'Amélie Beaucourt.
Dans 3 mois, le filet de badminton et le ring installé au stade de Villetaneuse laisseront place à une énorme fan zone pour suivre les Jeux Olympiques sur écran géant.
Est-ce que t'as hâte? Bof. Ça t'intéresse pas trop?
Si, mais j'ai pas hâte.
Les JO dans 93 dodo, c'est encore loin pour Malik. Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de découvrir un maximum de disciplines olympiques et paralympiques en une journée.
Ceux qui n'ont pas de gants, ils vont faire pomme contre pomme en garde ici.
On a fait de la boxe avec les yeux bandés, on a fait du tir à l'arc et le rugby. J'ai préféré faire la boxe, c'était le meilleur truc, j'aimais bien.
Est-ce que tu suis un peu la boxe à la télé?
Oui, Mike Tazer, Baki, Doumbé, Ngandou et...
Pas tout à fait le type de boxeur qu'il pourra croiser cet été, mais c'est bien en Seine-Saint-Denis que logeront les athlètes, un événement qui va faire du bien au département pour CHEUF, éducateur sportif.
C'est une occasion de réunir les pratiquants et les non-pratiquants. Il faut savoir que le sport, c'est quelque chose qui engage le respect et la discipline. Là où il y a le sport, il n'y a pas de violence.
Dans le 93, 180 000 billets sont d'ailleurs en train d'être distribués gratuitement à la population.
Un reportage d'Amélie Beaucourt, il est midi 10 à Paris. Fin de ce journal dans un instant sur RFI, 8 milliards de voisins.